VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 de GMT. On est le 1er février 2017. Au sommaire, l'Union africaine décide de soutenir la sortie des 34 États membres de la CPI, mais la décision n'est pas juridiquement contraignante. En Gambie, le président Adama Barrow veut un gouvernement restreint de 18 membres. 11 d'entre eux ont déjà été nommés. Le président américain Donald Trump nomme le 9e juge de la Cour suprême pour remplacer Antonin Scalia, mort l'an dernier. La bataille pour sa confirmation est lancée au Sénat. Ne ratez pas les informations sur la CAN 2017 avec l'affiche de la première demi-finale Burkina-Égypte et l'actualité économique. Mais tout d'abord, le journal. Au Cameroun, une attaque survenue à la frontière avec le Nigeria a fait 5 morts, dont un contractuel des Nations Unies, selon l'agence AP. L'attaque a été condamnée par Mohamed Ibn Shambaz, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. La nationalité du contractuel n'a pas été rendue publique. Les dirigeants africains ont adopté hier une stratégie appelant à un retrait collectif de la Cour pénale internationale. La décision juridiquement non contraignante est intervenue lors d'une réunion à huis clos à la fin du 28e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Les explications de Jacques Aristide.
Il s'agit de la dernière démonstration d'impatience des chefs d'État africains à l'égard de la CPI qui, selon eux, se concentre trop sur le continent africain. La menace a été régulièrement brandie depuis le premier mandat d'arrêt international émis en 2009 contre le président soudanais Omar el-Béchir. Mais l'éventualité du retrait commun des 34 États africains, signataires du statut de Rome, s'est accentuée avec la procédure qui avait visé le président kényan Uhuru Kenyatta. D'ailleurs, sur proposition de celui-ci, lors du sommet de l'an dernier, une résolution prévoyant l'élaboration d'une feuille de route pour un retrait de la CPI avait été adoptée. L'année dernière encore, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi avaient annoncé leur retrait. Confirmant la stratégie entérinée hier à Addis Abeba, une source proche du comité judiciaire de l'UA a indiqué que les pays africains étaient divisés sur la question. La majorité des États ont également voulu que le sens de l'immunité et de l'impunité soit modifié dans le statut de Rome qui a fondé la CPI. L'UA recommande plutôt le renforcement de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. L'ONG Human Rights Watch a réagi en indiquant que la mesure n'établissait aucun calendrier et comprenait peu de recommandations concrètes pour un passage à l'action et de rappeler que plusieurs pays africains dont le Nigeria, le Sénégal et la République du Congo se sont exprimés en faveur de la CPI au cours de ces derniers mois.
Jacques Aristide, le président de la République de Gambie, Adama Barrow, a dévoilé son gouvernement et dans la foulée, le nouveau pouvoir va bénéficier du dégel des aides de l'Union européenne. Les précisions de Tatiana Mosso.
11 portefeuilles seront confiés à des membres de la coalition de l'opposition qu'il a porté au pouvoir et 7 iront à des technocrates qui vont l'aider à relever les défis. Khalifa Sala, le porte-parole du président gambien, assure que des consultations sont en cours pour pourvoir les 7 postes encore vacants. Mais déjà, les ministères des Finances, des Affaires étrangères, de l'Intérieur ou encore de la Justice ont été confiés à des figures de proue de la coalition. Dans ce contexte, l'Union européenne a annoncé le dégel de 33 millions d'euros d'aide qui avait été bloqué sous le régime de Yahya Jammeh. Cette suspension était directement liée aux violations des droits de l'homme commises sous la présidence de Jammeh. Lors de sa prestation de serment, le président Adama Barrow s'est engagé à faire respecter les lois pour la protection des droits humains.
Au Zimbabwe, le gouvernement a mis en place une taxe de 15% sur les produits alimentaires de base pour renflouer les caisses de l'État. Une décision sévèrement critiquée par l'opposition. Par ailleurs, le pasteur frondeur Mawarire a été arrêté dès son retour à Harare ce matin. Le point avec John Lyndon.
D'après le ministère des Finances, la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée vise les pommes de terre, le riz, la margarine et la viande. L'économie du pays est asphyxiée par le manque de liquidités. 90% de la population active n'a pas d'emploi formel. Il faut patienter de longues heures devant les banques pour retirer de l'argent et l'État a du mal à payer ses fonctionnaires à temps. Le gouvernement a lancé en novembre des billets d'obligation pour tenter de ralentir la fuite des dollars américains vers l'étranger. Cette mesure n'a pas eu d'effet et a ravivé les craintes de l'hyperinflation qui a ravagé le pays dans les années 2000. Accusé par ses opposants d'avoir coulé l'économie, le président Robert Mugabe, qui fête le 21 février ses 93 ans, a été investi par son parti pour briguer un autre mandat en 2018. À Harare, le pasteur Evan Mawarire, un des chefs de file de la fronde contre le régime, a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport, alors qu'il rentrait de plus de 6 mois d'exil.
John Lindon. Le gouvernement italien a annoncé la création d'un fonds de 200 millions d'euros destiné à aider plusieurs pays d'Afrique à réduire les flux de migration clandestine à destination de la péninsule. Ce fonds Afrique vise à éviter les départs, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Angelino Alfano lors de la signature du décret activant le dispositif. La Libye, le Niger et la Tunisie sont les 3 pays bénéficiaires de la mesure. En Tunisie, une information judiciaire a été ouverte contre 12 hauts fonctionnaires pour des cas présumés de corruption. Parmi ces personnes figure un ancien chef du contentieux de l'État, le représentant légal de l'État pour ce qui relève du domaine judiciaire. Il a été en poste entre 2011 et 2012. Il est soupçonné de détournement de fonds publics.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent africain, ici aux États-Unis. Donald Trump a annoncé hier soir la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch au 9e siège vacant de la Cour suprême. Le nouveau juge suprême a promis d'être un fidèle serviteur de la Constitution américaine s'il est confirmé. Salwa Jafari nous en dit plus sur le personnage.
Judge Neil Gorsuch. So was that a surprise, was it?
Une surprise, c'en est une en tout cas, pour beaucoup. Le suspense avait été savamment entretenu jusqu'à la dernière minute. Magistrat reconnu pour sa rigueur intellectuelle, qui a connu une ascension rapide, Neil Gorsuch, magistrat à la Cour d'appel fédérale de Denver, au Colorado, deviendra, s'il est confirmé par le Sénat, le plus jeune juge nommé à la Cour suprême en un quart de siècle.
It is the role of judges to apply, not alter the work of the people's representatives.
Le rôle des juges est d'appliquer et non de ne pas modifier le travail de représentants du peuple. Un juge qui est satisfait de tous les résultats qu'il atteint est très probablement un mauvais juge.
Ce choix arrime l'institution à droite. Un magistrat conservateur à la Cour suprême était l'une des principales raisons avancées par les électeurs de Donald Trump pour justifier leur choix du milliardaire.
Salwa Jafari, merci. En poursuivant la colonisation, le gouvernement israélien met directement en péril la perspective d'un règlement du conflit israélo-palestinien. La solution à 2 États risquant même de devenir impossible. C'est ce qu'a déclaré Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'UE. Elle réagissait dans un communiqué à l'annonce par Israël la nuit dernière de la construction de 3000 logements de colonisation en Cisjordanie occupée. Il s'agit de la 4e annonce du genre en moins de 2 semaines depuis l'investiture du président américain Donald Trump. Le président irakien Fouad Massoum a affirmé que le décret anti-immigration du président Donald Trump est un choc pour l'Irak, qui figure dans la liste des pays concernés par ces restrictions. De son côté, le Vatican se dit préoccupé après les décrets du président américain sur le mur à la frontière mexicaine et sur l'interdiction d'entrée des ressortissants de 7 pays musulmans. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, se rend à partir d'aujourd'hui en Corée du Sud et au Japon pour rassurer ses 2 alliés clés des États-Unis sur l'engagement de Washington en matière de sécurité. Le secrétaire de la Défense est le premier responsable de l'administration Trump à partir en voyage officiel à l'étranger. Le secrétaire général de l'OTAN déplore ce qu'il considère comme le plus grave regain de violence observé depuis longtemps dans l'est de l'Ukraine. Jens Stoltenberg a aussi sommé la Russie d'user de son influence auprès des séparatistes pro-russes pour faire taire les armes. Jens Stoltenberg a de nouveau réclamé le respect du cessez-le-feu par toutes les parties, un retrait de toutes les armes lourdes interdites et un accès des observateurs de l'OSCE conformément aux accords de l'Union européenne. Et puis l'Union européenne, justement, et le Mexique qui veulent accélérer leurs discussions commerciales pour moderniser leur partenariat économique. Depuis son arrivée au pouvoir fin janvier, Donald Trump semble vouloir mener une politique protectionniste, voire nationaliste, y compris au détriment de ses principaux partenaires dont fait partie le Mexique et également l'Union européenne. La Voix de l'Amérique a 75 ans aujourd'hui. Cet organe financé par le gouvernement américain se veut un média indépendant qui livre une information juste et crédible dans 47 langues à travers le monde. La VOA, qui a connu des mutations ces dernières années en diversifiant ses offres, a investi plusieurs millions de dollars dans le digital et la télévision, avec une audience cumulée de 236 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes. On écoute les vœux du président sénégalais Macky Sall.
La Voix de l'Amérique est une radio connue à travers le monde et à travers les ondes, les Africains aussi suivent votre radio. Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire, 75e anniversaire. C'est l'âge de la sagesse et je pense que vous avez accumulé un tel capital d'expérience que vous allez continuer à éclairer les opinions non seulement africaines mais mondiales sur les sujets qui intéresse le monde, comme le climat, les migrations, tous les défis, en fait, qui se posent à l'humanité. Mais aussi d'éclairer le monde sur ce qui se passe aux États-Unis pour que le monde entier puisse également suivre de près, surtout grâce aux différentes langues que vous utilisez. Je pense que cela est une source d'enrichissement. Et je voudrais féliciter la Voix de l'Amérique pour cet anniversaire et le travail que vous faites.
Voilà, comme le président Macky Sall, restez fidèles en compagnie de la Voix de l'Amérique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pino.
Bonsoir à tous. La première demi-finale de la CAN, c'est ce soir 19h temps universel à Libreville entre le Burkina Faso et l'Égypte. Le Burkina pressé d'arriver en finale, c'est ce qu'a déclaré hier le défenseur des étalons Bakary Koné lors de la conférence de presse. Pour Hector Cuper, l'Argentin à la tête de l'Égypte, il faut jouer ce match et ne pas regarder le passé glorieux des pharaons. On retrouve tout de suite sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Dangmaï. Timothée, quelle est l'ambiance sur place?
Oui Nico, c'est la grande explication entre les étalons du Burkina et les pharaons d'Égypte. Les deux équipes sont prêtes pour cette partie. Côté burkinabé, évidemment, on mise sur des éléments comme Bertrand Traoré ou encore le vétéran Aristide Vancé ou encore Pejus Nakoulma. Chez les Égyptiens, on a la confiance du gardien, le vétéran de l'équipe El Hadary, et qui aura également avec lui Mohamed Salah. Donc, c'est deux équipes qui sont vraiment déterminées à jouer ce match au meilleur de leur prestation. On s'attend à une affluence au stade pour le moment et dans la tradition gabonaise, les environs du stade sont encore vides. Mais dès que les hymnes vont commencer à être chantés, on verra appuyer les fans gabonais dans les gradins. Les Burkinabés sont confiants. Ils estiment que l'Égypte a un palmarès, mais qu'eux aussi ont cette fois-ci de nouveaux éléments, de nouveaux atouts à faire valoir. Donc ils sont tout à fait confiants. Et leur coach Paulo Duarte a souligné l'humilité de ce groupe de Burkinabé. Il a dit que c'est un atout dans un match comme celui de l'Égypte. Côté égyptien aussi, on a tenté de minimiser l'importance du palmarès passé, de ces titres de l'Égypte. Le coach Hector Cuper a dit que oui, il y a eu sept titres, mais pour le moment, l'équipe actuelle cherche à gagner son propre titre. Donc le passé ne va pas être d'une très, très grande utilité. Dans ce match, non, les deux équipes, Nico, sont confiante. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Studio de joie, l'Africain au Gabon. Hey. Ignorer, c'est l'annonce, c'est pas bon. Hey. Plusieurs pays ont pris l'avion.
Demain, place à la demi-finale entre le Cameroun et le Ghana. Léger avantage aux Black Stars qui joueront leur sixième demi-finale d'affilée, tandis que les Lions Indomptables n'avaient pas atteint ce niveau de la compétition depuis 2008. Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi demain matin sur VOA Afrique. Et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
La production du brut tunisien est en pleine dégringolade. Pour pallier cela, le pays s'est doté de nouveaux codes des hydrocarbures pour attirer plus d'investisseurs étrangers et apporter plus de flexibilité. Les autorités tunisiennes en ont fait la priorité depuis quelques mois. Une question qui est devenue d'autant plus urgente que la production du pétrole brut, estimée à environ 80 000 barils par jour en 2010, est tombée à quelque 40 000 barils par jour en 2016. Conséquence, le marché noir séduit davantage, entraînant un manque à gagner pour les distributeurs et l'État, dont les pertes en revenus fiscaux sont estimées à 500 millions de dinars par an. La volaille sud-africaine menacée par le poulet européen. Numéro 1 de la volaille sud-africaine, RCL Food, a annoncé la semaine dernière 1355 licenciements, soit un cinquième de ses effectifs, et mis en vente 15 de ses 25 fermes. Pour les industriels sud-africains de la volaille, le problème viendrait de la concurrence déloyale des importations massives de poulets à bas prix, en provenance de l'Union européenne. Cette dernière nie toute responsabilité dans la crise. Mais les Sud-Africains assurent que si rien n'est fait, c'est toute l'industrie, ses 60 000 emplois directs et ses 130 000 emplois indirects qui est menacée.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les chefs d'État africains ont adopté hier une stratégie appelant à un retrait collectif de la Cour pénale internationale. C'était lors d'une réunion à huis clos à la fin du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint Gilles Yabi, directeur de Wati, un think tank ouest-africain.
Un certain nombre de pays africains ne sont pas du tout en faveur de ces décisions collectives, en faisant prévaloir d'ailleurs que les pays ont signé individuellement le traité de Rome et donc qu'il n'y avait pas de logique à ce qu'il y ait un retrait collectif alors que l'adhésion avait été individuelle.
Pourtant, ces pays ont souscrit au traité de Rome qui n'a jamais été modifié. Est-ce que les raisons qui sont avancées vous sont-elles légitimes ou légales?
La très grande majorité des dossiers ouverts au niveau de la Cour pénale internationale concernent le continent africain et que les chefs d'État africains sont directement ou ont été directement visés. Et donc il y a la dénonciation, généralement qu'on entend une dénonciation, disons, qui consiste à dire que la Cour pénale ne poursuit pas de manière équitable toutes les personnes responsables des crimes les plus graves et dans d'autres régions du monde où il y a également des situations qui pourraient tout à fait être référées devant la Cour pénale internationale. Je crois que cet argument mérite d'être entendu, mais je pense qu'il mérite d'être dit également, c'est que les victimes de ces crimes les plus importants, lorsque ce sont les dossiers africains, ce sont aussi les victimes africaines. Et cela veut dire au fond que l'objectif qui est celui de la justice et celui de la prévention de la récurrence de crimes graves, cela évidemment va dans le sens de la paix et de la sécurité en Afrique pour empêcher qu'un certain nombre de responsables politiques puissent considérer que tous les moyens sont bons, par exemple dans leur lutte pour le pouvoir. Il ne faut pas rejeter totalement tous ces arguments, il faut les examiner et il faut surtout que le fonctionnement de la Cour pénale internationale, lui, soit réexaminé de manière à ce que tout le monde ait les garanties qu'effectivement la justice internationale est la même pour tous.
Mais quand on respecte les droits de l'homme, on ne peut rien craindre.
Il faut séparer la question de la légitimité et de l'utilité d'avoir une Cour pénale internationale pour examiner des crimes les plus graves. Ce sont d'ailleurs très précisément définis par le traité de Rome. Il faut distinguer cette question du principe, faire avancer l'ensemble de l'humanité, toutes les régions du monde, et la question du fonctionnement concret de la Cour pénale internationale, où je pense qu'il y a des faiblesses très évidentes dans ce fonctionnement, qui sont aussi d'ailleurs en partie liés à des questions de compétences au sein de la Cour. Il y a des dossiers précis où il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises et tout cela ne pouvait pas renforcer la légitimité d'une Cour durant les premières années de son existence. Je pense qu'il faut corriger ces erreurs, mais qu'il faut réaffirmer le principe de l'utilité de cette Cour pénale internationale.
C'était Gilles Yabi, directeur de Wati, un think tank ouest-africain.
Dans Washington Forum, ce jeudi, le grand retour du Maroc dans l'Union africaine. 39 chefs d'État sur 54 se sont prononcés en faveur de ce retour Qu'en pensez-vous? Le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine, quel défi pour le nouvel homme fort de l'UA? Le décret sur l'immigration de Donald Trump, quelles conséquences pour les pays du continent? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Tchad, après deux semaines de cours suite à une longue grève de la plateforme syndicale revendicative qui a bloqué les activités académiques, les étudiants de l'Université du Tchad éprouvent d'énormes difficultés. Les conditions d'études ne sont pas réunies. Réaction des étudiants dans ce reportage d'André Kodmajingar.
Après 8 mois de débrayage pour revendiquer des meilleures conditions d'études, un compromis a été trouvé avec le gouvernement au début du mois de janvier pour éviter une année blanche. Le gouvernement s'est engagé à payer les 6 mois d'arriéré de bourse et améliorer les conditions d'études dès la reprise des activités académiques. Mais 2 semaines après la reprise des cours, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Coup de gueule de quelques étudiants.
Ce gouvernement a la forte prétention d'en découdre avec les étudiants. Nous rencontrons davantage de panoplie de problèmes. L'entassement dans les bus comme des esclaves noirs en déportation, le manque d'électricité, l'absence totale de wifi et s'ajoute la suppression de la bourse afin d'envoyer l'étudiant tchadien en enfer.
Le restaurant ne fonctionne plus. Prenons un exemple de certains qui font cours de lundi jusqu'à samedi, ils finissent à 17h. Et 17h, il n'y a pas de restaurant. Qu'est-ce que l'étudiant a fait? On refuse de donner des bourses aux étudiants et on nous refuse les wifi, la restauration, les bus. Finalement, nous sommes dans une situation vraiment compliquée.
Face à la menace des étudiants d'observer une grève sur toute l'étendue du territoire national, une rencontre d'urgence a été tenue ce 1er février entre le bureau de transition de l'Union nationale des étudiants tchadiens et le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Makai Hassan Taïso. Pour le ministre, le gouvernement ne peut faire de miracles face aux revendications des étudiants.
Pour moi, la question de la bourse n'est plus pour le moment discutable. C'est une décision gouvernementale qui a été prise pour des raisons connues. La situation est difficile et elle ne peut pas s'améliorer du jour au lendemain. Notre défi, c'est d'arriver à assurer le transport régulièrement, que la restauration soit régulière. Pour le reste, moi je crois qu'il y a les arriérés qu'on essaiera de payer dès qu'on aura un peu de moyens. Si d'emblée, l'étudiant disent, bon, sans bourse, pas d'études, à ce moment, c'est un choix qui aurait été fait. Le gouvernement prendra acte.
Pour Mortordé Bonheur, vice-président du bureau de transition de l'Union nationale des étudiants tchadiens, le gouvernement est de mauvaise foi et les étudiants vont tirer toutes les conséquences après le 8 février prochain.
C'est juste un acte de bonne foi pour qu'on puisse décanter la situation. Ce qui n'est pas le cas de nos partenaires, nous en sommes déçus. Donc la grève n'a pas été prorogée, c'est juste une suspension. Il y a les étudiants qui sont en train de composer à l'heure où je vous parle. Donc on va donner cette chance-là encore à nos camarades de finir la session et d'ici le 8, ça c'est un préavis qui est irrévocable. Quel que soit ce qu'on va nous avancer comme argument, on ne va pas entendre de cette oreille-là.
André Kodmajingar Ndiamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, procès des leaders anglophones. L'atmosphère a été tendue ce matin au tribunal militaire de Yaoundé où l'on a frôlé un affrontement entre les avocats et certains responsables de cette juridiction. Le procès a été reporté au 13 février. Reportage Emmanuel Jultap.
Les avocats du barreau du Cameroun hurlent de colère. Nous sommes dans la cour principale du tribunal militaire de Yaoundé. Le greffier en chef près du tribunal vient interrompre brutalement une communication à la presse et aux avocats faite par Maître Tchungang, avocat au barreau du Cameroun.
Mes chers confrères, il y a de cela 30 ans, nous sommes venus ici défendre notre ancien bâtonnier Yondo Black. Aujourd'hui, l'histoire nous interpelle à nouveau pour les mêmes motifs, c'est-à-dire en fait des gens qui ont pensé qu'on pouvait discuter de notre pays. comme disait le président de la République, il nous a dit qu'on n'a plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions.
Les avocats sortent alors de leur gonds pour protester contre cette violation de leur liberté d'expression. Maître Antoine Mandeng est dans le collège d'avocats qui défend les trois leaders anglophones interpellés.
Nous avons le bâtonnier monté à la part à la suite du bâtonnier Chungan. On voulait faire une communication aux confrères pour qu'ils ne soient pas démobilisés et découragés. C'est à cet effet que le greffier en chef du tribunal militaire a intervenu, voulant arracher le téléphone par-ci, ça par-là, a ordonné même qu'on ferme le portail afin que nous ne sortions pas. Il ne faudrait pas que ce qui est dit par le chef de l'État soit détourné par ceux qui ont un démembrement de son pouvoir. Mais nous restons sereins. Ce moment ne nous a pas déstabilisés. Nous allons poursuivre dans le combat.
Un confrère d'une radio internationale est arrêté, son matériel saisi et conduit plus tard au secrétariat d'État à la gendarmerie. Ce matin, une centaine d'avocats a répondu présents au tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont venus soutenir l'un de leurs collègues, Maître Ngonko Akborn Bala, figure de proue du mouvement de grève qui a paralysé les deux régions anglophones du Cameroun. Après la dissolution par le gouvernement camerounais du consortium de la société civile anglophone, Maître Mbala, docteur Fonkam, enseignant, et l'animateur radio Mantio Bibiti avaient été interpellés. Ils sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, entre autres. Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison, selon la nouvelle loi camerounaise qui réprimande le terrorisme. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le président américain Donald Trump a nommé le juge Neil Gorsuch au 9e siège vacant de la Cour suprême. Avec 4 magistrats conservateurs et 4 progressistes, ce 9e siège est déterminant. La nomination de Neil Gorsuch, 49 ans, doit encore être ratifiée par le Sénat. Pour en parler, John Lindon a joint Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères.
C'est un juge qui a très, très bonne réputation. Il est un grand professeur de droit. Il a fait beaucoup d'années dans la cour d'appel et il est considéré comme un juge conservateur. C'est-à-dire qu'il fait des interprétations de la Constitution. Selon les mots de la Constitution, il ne fait pas de grands changements. Et il est considéré comme un homme de droite, ce que M. Trump a promis.
Quel est le rôle de la Cour suprême aux États-Unis?
La Cour suprême décide les cas de litige selon la Constitution. S'il y a deux opposants qui se disputent quelque chose, c'est-à-dire deux États, des citoyens américains contre un État, c'est la Cour suprême qui décide selon la Constitution. Par exemple, il y a le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage entre homosexuels. Il y a des États qui ont interdit ça, mais il y a des organisations qui sont allées vers la Cour suprême pour dire la Constitution autorise le mariage entre homosexuels. Et la Cour suprême a dit, selon la Constitution, c'est le droit de tout le monde de se marier. Et donc, ils ont approuvé le mariage pour tous. Ils décident des cas selon la Constitution.
Est-ce que vous, qui avez travaillé comme ambassadeur en Afrique, vous pouvez faire une comparaison entre l'importance de la Cour suprême ici aux États-Unis et l'importance qui lui est accordée dans beaucoup de pays africains?
Je ne vois pas une grande différence. Je vois que la Cour suprême, par exemple, j'étais au Sénégal et le gouvernement du Sénégal a décidé d'avoir, dans le divorce entre un homme et sa femme, ils ont décidé que l'homme doit payer de l'argent à la femme, un certain paiement tous les mois, comme nous avons aux États-Unis. Et il y a des hommes qui ont posé objection, et la Cour suprême du Sénégal a décidé que c'est tout à fait conforme avec la Constitution du Sénégal. Donc c'était à peu près la même chose.
Est-ce que vous pensez que Gorsuch sera confirmé?
Oui, mais écoutez, les démocrates, ils sont en minorité dans le Sénat, ils sont très fâchés parce que le prédécesseur du juge Gorsuch est décidé il y a 9 mois. Et président Obama a nommé quelqu'un, mais les républicains au Sénat ont refusé d'avoir un vote. Donc les démocrates cherchent à faire du trouble contre Trump parce que les républicains étaient méchants. Donc il y aura des problèmes, mais je crois qu'il va passer.
Voilà, Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines avec John Lindon, et c'est cet élément qui met fin à cette édition, mise en onde de Georges Léonard Sagno, présentation Abdourahmane Dia. Restez avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, et notre site internet voafrique.com. Au revoir.